sur l'info, le journal
avec MCM,
présenté par Antoine Samoyo.
Bonjour Antoine, on commence par les titres.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. S'il devait y avoir un blocage, c'est vrai que l'État serait amené à intervenir. Les propos sont signés de la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, à propos de la situation politique en Polynésie. La question d'une dissolution de l'Assemblée est sur toutes les lèvres. Toutes les hypothèses sont possibles, pourquoi pas, répond la ministre dans une interview exclusive à Radio 1, vous l'entendrez. Les réactions ne se sont pas fait attendre ce matin, assez virulentes de la part de l'opposition. Anthony Géraud parle d'une posture néocolonial pour l'UPLD, Marcel Touyani d'un déni de démocratie pour le Taroueraa. Et puis nous reviendrons également sur l'actualité politique d'hier à l'Assemblée. Édouard Fritsch qui justement s'est retrouvé bloqué par le Taroueraa et l'UPLD. Une journée assez chargée avec toujours en toile de fond les changements de bord politiques. A tout de suite.
Et on démarre avec cette exclusivité Radio 1 ce matin et les déclarations de la ministre des Outre-mer sur la situation politique en Polynésie.
À l'occasion d'un déjeuner de rentrée au ministère des Outre-mer, la ministre Georges Paul-Angevin est revenue sur l'actualité politique du Fénois et les difficultés d'Édouard Fritsch à se trouver une majorité. Dans une interview à notre correspondante à Paris, elle affirme que l'État pourrait intervenir s'il devait y avoir un blocage des institutions. Elle est interrogée sur l'éventualité d'une dissolution de l'Assemblée prévue par le statut. Toutes les hypothèses sont possibles, pourquoi pas, répond la ministre avant d'ajouter que nous n'en sommes pas là. Écoutez Georges Paul-Angevin au micro de Radija Benouataf.
Alors écoutez, pour l'instant, j'ai le sentiment qu'il y a encore des possibilités que des accords soient trouvés et que le président Fritsch puisse faire vivre une majorité. Il devait effectivement y avoir un blocage ou une difficulté, à ce moment-là, c'est vrai que l'État serait amené à intervenir.
Intervenir, ce serait dissoudre l'Assemblée territoriale ?
Toutes les hypothèses sont possibles, pourquoi pas, mais je crois que vraiment, on n'en est pas là. Et je n'ai pas le sentiment, même si je vois bien ce qui se passe et je suis les difficultés qui sont un peu posées devant ses pas chaque jour, j'ai le sentiment que jusque-là, il est parvenu à avancer et à faire voter ses budgets, à faire voter les choses auxquelles il tient. Et j'ai le sentiment qu'il est en mesure de parvenir à trouver des solutions politiques sans qu'il y ait blocage.
Et sachez que plusieurs sources concordantes nous ont confirmé hier que le ministère de l'Outre-mer avait effectivement mené plusieurs consultations ces derniers mois sur la question d'une dissolution de l'Assemblée. Dans un tel scénario, Gaston Flosse ne pourrait pas se présenter. Je vous rappelle qu'il reste inéligible jusqu'en 2017.
En tout cas, ces déclarations ont fait beaucoup de bruit ce matin, Antoine.
Le Taroueraa a réagi il y a tout juste une heure par un communiqué de presse en se déclarant stupéfait des déclarations tenues par la ministre. Le parti orange qui parle d'une immixtion intolérable dans la vie politique locale. Et puis interrogé ce matin, le président de l'Assemblée, Marcel Touyani, considère que le pays n'est pas dans une situation de blocage. Il se dit lui-même choqué par les propos tenus par la ministre des Outre-mer.
Encore une fois, je revendique les débats démocratiques qui sont menés au sein de l'Assemblée. Et hier, l'exemple a été, je dirais, fait. Nous ne sommes pas dans une situation de blocage. Je suis plus que choqué d'entendre la ministre des Outre-mer, membre du gouvernement central, évoquer ce point-là.
Alors, certains diront que le Taroueraa fera du blocage. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Est-ce que le Taroueraa va vraiment faire du blocage?
Écoutez, regardez l'histoire de ce pays et l'histoire du Taroueraa Huratira. Est-ce que le Taroueraa Huratira a manqué à ses responsabilités vis-à-vis des intérêts de la Polynésie et des Polynésiens? Faux. Les autres partis politiques qui se sont constitués après, entre 2004 et 2013, ont été à l'origine de l'instabilité et des blocages des institutions, si on a le même point de vue que le président du gouvernement et la ministre des Outre-mer. Vous savez, ce qui m'a choqué dans les propos de la ministre des Outre-mer, c'est de considérer que le conflit entre deux hommes, entre M. Gaston Flosse et M. Édouard Fritsch, qui se situe strictement dans le périmètre du parti politique, le Taroueraa Huratira, que le gouvernement central souhaite intervenir dans ce conflit. Il y a là, je pense, un déni de démocratie.
Et du côté de l'UPLD, Anthony Géraud considère ses propos comme étant ceux d'un comportement néocolonial de l'État. Il affirme lui aussi qu'il n'y a pas de blocage et parle de simples débats démocratiques pour qualifier la situation actuelle.
Ben moi, je pense que c'est une position néocoloniale. Nous avons été élus démocratiquement et quand les textes nous sont présentés, si ces textes rejoignent nos principes et l'idéologie du parti, à ce moment-là, on le soutient. Sinon, on vote contre. Je vois vraiment pas pourquoi l'État va venir nous dicter la manière dont il faut qu'on prenne nos décisions. Parce que si tel est le cas, à ce moment-là, faites passer toutes les lois de pays et dispensez-vous de la démocratie polynésienne.
Tony, est-ce que vous êtes d'accord avec le président lorsqu'il dit qu'il y aura blocage ?
Absolument pas. Vous savez, nous, à l'UPLD, on a été peut-être le parti qui a été le plus concerné par l'instabilité. Hein. On a eu plusieurs lois de pays que nous avons été obligés de retirer du circuit parce qu'en face de nous, notre majorité de coalition ne suivait pas. Il n'y a pas eu blocage pour autant.
Alors, si l'État venait à dissoudre l'Assemblée, quelle serait votre réaction ?
Ben nous, simplement, de rallonger la liste de doléances que nous avons déjà déposées à l'ONU pour leur dire que voilà, une autre action néocoloniale en Polynésie qui se veut autonome.
Anthony Géros et Marcel Touyani, qui étaient tous deux interrogés par Vaïté Ourari Pambrin.
Et de majorité, Édouard Fritsch n'en avait plus hier à l'Assemblée. Il a encore une fois dû reculer devant le Tahoeira et l'UPLD.
Les élus étaient convoqués hier matin pour l'ouverture de la première séance de la session extraordinaire. Plusieurs dossiers à l'étude, et notamment le fameux projet de loi relatif à l'organisation du transport interinsulaire maritime et aérien. Mais à la demande de l'UPLD et du Tahoeira, qui sont majoritaires, je vous le rappelle, tous les élus ont finalement voté pour le report de ce projet de loi en commission. Pour information, tous, oui, mais sauf Lana Tetouanoui.
Je me suis opposée au report parce que j'estime quand même que nous devons assumer nos responsabilités au sein de cette Assemblée. C'est un sujet sur lequel nous avons discuté depuis le mois de mars. Tout le monde a été consulté. Mais le problème qui se passe aujourd'hui, nous avons brillé par nos absences. Alors pour moi, c'est trop facile de venir en séance et de s'opposer parce que nous avons été mal informés. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis opposée.
Et pour le Tahoeira, Gilda Veichova-Atoa a demandé le report de ce dossier en commission en estimant que les élus n'avaient pas eu le schéma directeur des transports interinsulaires entre les mains.
On ne peut pas étudier un cadre juridique si on n'a pas vu le schéma directeur.
Donc en fait, le dossier n'a pas été complet quand il a été présenté en commission.
En commission, on a examiné le cadre juridique d'un schéma directeur. Or, on n'a pas encore vu le schéma directeur. C'est comme si nous examinions une coquille vide. En fait, il était prématuré d'examiner un cadre juridique avant d'examiner le schéma lui-même, le dossier le plus important lui-même. Et je trouve que cette demande était tout à fait légitime, puisque on ne peut pas dire oui ou dire non sur quelque chose que nous ne connaissons pas.
Et voyant que le groupe Tahoeira et l'UPLD avaient demandé le report de ce texte en commission, le président Édouard Fritsch s'est résigné de peur de voir son texte être retoqué par l'Assemblée.
Si les motivations sont fondées, nous avons des réponses. Mais bon, si c'est politique, comme vous avez observé aujourd'hui, où on vient mentir à l'Assemblée, on raconte des mensonges. Il y a eu des commissions depuis avril quand même. Ces choses sont discutées ici à l'Assemblée. Vous avez bien compris que là, il y aura un blocage.
Et la séance a d'ailleurs été marquée par le retour de Jacques Rayoha sur les bancs du Tahoeira.
L'élu des Tuamotu de l'Est n'était pas présent dans l'hémicycle, mais après avoir signé sa démission du Tahoeira vendredi dernier, Jacques Rayoha est revenu sur sa signature. Il a affirmé à Radio 1 ne pas être un opportuniste ni un assoiffé de pouvoir et a expliqué avoir agi dans la précipitation. Vous pourrez d'ailleurs retrouver son interview sur le site radio1.pf.
Joël Frébeau aussi s'est expliqué sur un possible transfuge vers le Tapura et dément les propos du Tahoeira.
En effet, un communiqué émanant du parti Orange faisait état le week-end dernier de la possible démission de Joël Frébeau de l'UPLD pour conforter le groupe Tapura au sein de l'hémicycle, en échange de quoi son époux Louis Frébeau serait nommé ministre dans le gouvernement d'Édouard Fritsch. Et bien interrogé hier, l'élu UPLD dément, en tout cas pour l'instant.
Non, pas du tout. C'est pas du tout d'actualité.
Est-ce que votre mari a été contacté pour un poste de ministre?
Non, pas du tout. Mon mari est au Marquise, il a pas du tout été contacté.
Mais si on lui proposait un poste de ministre, est-ce que tu vas rejoindre quand même le Tapura?
Pour le moment, c'est pas d'actualité.
Mais plus tard?
Pour l'instant, non.
Joël Frébeau qui était interrogé par Vaïté Ourari Pambrin.
Il est midi 10, on va marquer une courte pause dans ce journal. La suite de l'actualité dans un instant.
Radio 1. Radio 1.
premier sur l'info.
On reprend ce journal pour parler pêche et économie avec la filiale de Tahiti Nui Rawai placée en redressement.
Dans son dernier rapport sur la société d'économie mixte Tahiti Nui Rawai, la chambre territoriale des comptes ne formulait qu'une seule recommandation. Je cite, cesser au plus tôt l'activité de Tahiti Nui Rawai et de sa filiale afin d'éviter que chaque année le pays soit dans l'obligation de verser entre 200 et 300 millions de francs de subventions annuelles. Eh bien, c'est chose faite. Depuis lundi, la filiale de Tahiti Nui Rawai, la SAS Avaya, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal. La société avait été créée en 2005. C'était une filiale à 100% de Tahiti Nui Rawai pour l'exploitation des 16 thoniers chinois achetés en 2004 par le pays. Des thoniers achetés sans aucun besoin professionnel, ni aucune ressource disponible en personnel pour les armées. Bref, de l'argent littéralement jeté par les hublots.
On termine par du sport avec Jérémy Flores qui a remporté hier la Billabong Pro.
Tombeur de Kelly Slater en demi-finale et de CJ Ogbood en quart de finale pour Kelly Slater et en demi-finale pour CJ Ogbood. Jérémy Flores s'est payé le luxe de battre le numéro 1 mondial Gabriel Medina en finale de la Billabong Pro. C'était hier midi. Avec deux superbes vagues, le Réunionnais a décroché sa première victoire sur le spot de Tiopo, qu'il affectionne d'ailleurs tout particulièrement. Une victoire qui lui permet en tout cas d'accéder à la 7e place du classement mondial.
Et autre actualité sportive, le Tour de Tahiti Nui dont la première étape s'est déroulée ce matin.
Les coureurs viennent d'ailleurs tout juste d'arriver. Ils se sont lancés de la mairie de Punaoya ce matin pour rejoindre Vairao avant leur retour sur Punaoya avec une arrivée en haut de la montée de Vaitavere. Soit 120 km de course. Et à ce petit jeu, c'est le français Geoffrey Milour du Vélo-Club de Tahiti qui s'est imposé. Vélo-Club de Tahiti qui porte les couleurs de Radio 1 et Tial FM, on peut le dire. Il endosse donc le maillot jaune après cette première journée du Tour de Tahiti Nui. On retrouve pour en parler Aritea Bernardino, directeur technique de la Fédération Tahitienne de cyclisme. Aritea, bonjour.
Bonjour. Donc, juste pour compléter votre information sur le vainqueur de l'étape d'aujourd'hui, c'est un club composé de Papeete Cycling et Vélo Club de Tahiti. Donc, Geoffrey Milour vient de gagner l'étape d'aujourd'hui. Ensuite, la particularité de cette épreuve, donc elle s'est déroulée sur 120 km de distance. Il y avait plusieurs points chauds à faire. Et on a deux Polynésiens qui arrachent deux maillots pour ce Tour Tahiti Nui 2015, à savoir Te'i Teishotahata qui remporte le maillot vert du meilleur sprinter, donc c'est le deuxième maillot le plus important. Et ensuite, Gilles Chauveau qui gagne le maillot des Masters.
Aritea, merci beaucoup pour ces précisions. À chaud, la course vient de se finir, on le disait. On reviendra en tout cas dans l'après-midi sur Radio 1 dans notre flash à 15h30 et puis sur notre site internet radio1.pf sur les suites, sur le résultat de cette première course du Tour de Tahiti Nui. En tout cas, il est 12h14, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.